Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 19h30, RTL dimanche soir.
Les dessous de l'écran sur RTL avec Pure Média.
Philippe Robuchon.
Que vous ayez connu la télé en noir et blanc ou pas, que vous soyez fan des années 60 ou pas, la nouvelle série qui démarre demain soir sur France 2 est pour vous. Speakerine, c'est son titre, est une véritable plongée dans la France du général de Gaulle, de la guerre d'Algérie, des DS et de l'ORTF. Une France où la femme commençait à s'affranchir de la toute-puissance masculine, y compris à la télévision. La comédienne qui incarne cette Speakerine, c'est Marie Gilin, elle sera avec nous dans un instant, tout comme celui qui incarne son mari dans la série, Guillaume de Tonquédec. Son mari est en même temps directeur de l'information de la seule chaîne de l'époque. Bonsoir Benjamin Meffre.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
De Pure Média, dans un quart d'heure, notre débat.
Ce soir Philippe, on tentera de faire le bilan du Canal Plus à la sauce Bolloré. Cette semaine, l'homme d'affaires breton a annoncé qu'il quittait la présidence du groupe Canal Plus après 3 ans d'arraigne sans partage. Officiellement, il passe la main parce que le redressement de Canal+ est, je cite, sur la bonne voie. Alors vrai ou faux, réalité ou intox, on en parlera avec Isabelle Robert du site Les Jours.
D'abord, l'actu média de la semaine. Série de nominations cette semaine. Sybille Veil succède à Mathieu Gallet à la tête de Radio France. Fabrice Friss succède à Emmanuel Hogg à la tête de l'agence France Presse. Et le tandem Bertrand Meheux-Cyril Linette est officialisé à la tête du PMU. 19h le dimanche, l'émission de Laurent Delahousse devrait s'arrêter à la fin de la saison. La promesse initiale, en finir avec le blues du dimanche soir, était louable. Mais les audiences, moins de 2 millions de téléspectateurs en moyenne, sont insuffisantes. Le mercato a déjà commencé. Hugo Clément pourrait faire en septembre son retour sur Canal+. La rumeur évoque une nouvelle émission dans la foulée de celle d'Yves Calvi, l'info du vrai. Le jeune journaliste qui officie désormais sur Combini se retrouverait face à Quotidien, son ancienne émission de TMC. Et puis un nouveau programme court d'ici la fin de la saison sur Sister. Ce serait d'ailleurs la toute première création originale pour cette chaîne, plutôt habituée au rediff. Il s'agira d'une série documentaire consacrée au quotidien des jeunes mamans et de leurs bébés. Elle sera diffusée en access, devrait durer une vingtaine de minutes et sera produite par Warner.
Les dessous de l'écran sur RTL avec Pure Média.
Philippe Robuchon.
C'est sur cet excellent générique de Speakerine qu'on accueille nos deux invités ce soir. Bonsoir Marie Gilin.
Bonsoir.
Vous jouez le rôle principal dans Speakerine, cette Christine Beauval qui est avec des tailleurs magnifiques, une coiffure à la Jackie Kennedy. Vous allez nous parler de ce rôle formidable dans un instant. Et dans la série, il y a également Guillaume de Tonquédec. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Vous jouez le mari de la Speakerine.
Ben oui, c'est ça. Il est aussi directeur de l'information, donc il est en même temps employeur de sa femme. Donc il y a une double casquette, ce qui va générer quelques soucis entre eux.
Alors on va y revenir. Marie, racontez-nous déjà votre toute première réaction lorsqu'on vous a dit que vous alliez jouer une Speakerine.
Bah, j'avais très envie d'incarner ce rôle parce que c'est une speakerine qui, derrière cette image de un petit peu de papier glacé, de femme entre guillemets parfaite, eh bien, on rentre vraiment dans son émancipation, dans son parcours, dans les coulisses de la télévision, dans les coulisses de sa vie privée. Mmh. Et comme disait Guillaume, on va voir que ça va être, elle va rencontrer forcément des obstacles dans un monde assez masculin et machiste, le monde de la télévision des années 60.
Est-ce que pour préparer votre rôle, vous êtes allé voir ce que faisaient les vraies speakerines de l'époque, Catherine Langer, Jacqueline Joubert, etc.
Oui, complètement. J'ai regardé des images d'archives de l'INA où on voyait notamment, j'ai beaucoup regardé Catherine Langer, mais c'était plus pour le phrasé de la speakerine.
Qui était très particulier, je crois.
On va y revenir.
Oui, qui était très particulier, très lent, très posé, on en reparlera plus tard.
Ouais,
J'ai regardé aussi un reportage où on voyait Simone Signoret dans un grand magasin à Paris, qui interviewait toutes sortes de femmes de toutes sortes de milieux sociaux différents. Et c'était assez passionnant de voir les vraies femmes françaises des années 60.
Oui. Alors, pour ce qui est des costumes, de la mode, des décors, on pense, quand on aime les séries, ça fait penser tout de suite à Mad Men. Voilà, une série américaine que vous aimez bien, je crois,
Marie.
Ah
oui, j'en suis complètement fan.
Et puis, il y a une autre série, alors ça, c'est Benjamin, le spécialiste, qui m'a dit ça, qui s'appelle The Hour.
L'heure. Oui, complètement. Qui est une série anglaise.
Oui, c'est
voilà,
ça.
Qui raconte les
la première émission d'actualité de la BBC.
Guillaume de Tonquédec, on peut dire la vérité, vous êtes un tout petit peu plus âgé dans la vie que Marie. Vous avez un peu connu, vous, la fin des années 60.
Alors, je suis né, donc je suis né en 66. Donc, évidemment, ça m'a beaucoup amusé de replonger dans cette époque-là. Et du point de vue esthétique, comme vous l'avez dit, les robes des femmes sont quand même magnifiques, il ne faut pas se mentir. Et Marie les porte particulièrement bien, ainsi que les coiffures. Et toutes les comédiennes qui jouent les speakerines,
oui,
là,
c'est
très, très amusant. Oui, mais bon, non, mais c'est vrai. Tu vois,
vous portez très bien le costume, Guillaume.
Ah, mais je vous remercie. c'est vrai qu'il y avait un plaisir esthétique pour nous de plonger dans ces années-là, avec même les téléphones avec des fils, les meubles en formica chez nous, l'ambiance, les vieilles DS, tout ça. Il y a un côté qui est très excitant pour l'imaginaire de replonger dans ces années-là.
Alors, vous me tendez une perche, Guillaume, parce que vous parlez des vieilles DS. On allait vous proposer à Marie et à vous un petit reportage qui a été fait par Laurent Marsic, qui a assisté à la construction de cette série, et notamment au décor. Je vous propose d'écouter son reportage, on en parle juste après.
Par exemple, vous verrez un vrai défilé de voitures dans cette série. Charline Delépine, la productrice, n'est pas peu fière de sa trouvaille.
On a trouvé des collectionneurs qui sont à Lisieux. Donc on a eu une collection de dauphines, d'arondes, de déesses. Et ça plante évidemment le décor immédiatement.
Mais pour faire circuler ces voitures dans les rues de Paris, ça a été une autre paire de manches. Les rues doivent être vierges, par exemple, de tags et graffitis contemporains. La production a parfois été obligée de camoufler, voire nettoyer les murs. On limite donc au maximum les scènes de rue pour privilégier les intérieurs. Par exemple, le siège de la fameuse RTF, la télévision française. Adresse officielle, rue Cognac-G. En vérité, c'est dans une usine, au nord de Paris, que la production a déniché la perle rare.
On a eu une chance inouïe parce qu'on a trouvé des décors qui étaient dans leur jus et qui n'étaient pas trop compliqués à mettre en place pour la déco.
Bien, ma chérie, si tu me permets, nous allons poursuivre notre visite avec nos amis américains. Venez, 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 je vous en prie.
Dernier coup de maître, le matériel d'époque de la télévision. Tout est là, comme sorti d'un musée, des caméras, des bandes de montage, des kilomètres de bobines et de boîtes de films. Charline Delépine.
On a eu une chance inouïe, une espèce de baraka, parce qu'on a trouvé un collectionneur, un passionné, et qui évidemment est en province, parce que ça c'est impossible de garder tout ça dans la région parisienne, qui a des hangars et des hangars de vieux moniteurs, de vieux magnétos, de vieilles télévisions. On les a renettoyés, arrangés. Les éléments techniques qui sont là sont des éléments authentiques.
Non, les mains, fais-les à plat, tu sais, pose les mains à plat comme ça. Voilà, ça sera.
Enfin, ce n'est pas le plus petit détail, il a fallu recréer le phrasé de l'époque pour les actrices. Car en 1960, on parlait comme ceci, Catherine Langer.
Après le journal télévisé de 20h15 et le départ des jouets des 5000 colis de la RTF à bord du Coche d'eau, au mouillage à la Concorde, Pierre Tchernia et Alexandre Tartat nous gratifient dans une ambiance très britannique du Noël de Sherlock Holmes.
Marie Gillin, vous confirmez, vous avez travaillé le phrasé des speakerines de l'époque ?
Oui, c'est un phrasé qui est beaucoup plus lent, beaucoup plus posé, avec une forme d'expression beaucoup plus modérée. En tout cas, chez les femmes, il n'y a pas du tout de... Rien ne déborde, tout est très doux. Un peu à l'image, sans doute, qu'on devait se faire des femmes à l'époque. Délicate, rassurante, propre, mais surtout qu'elles n'en fassent pas trop, qu'elles ne soient surtout pas sexuées. Enfin, voilà, il y avait
justement,
des codes.
Marie Gillin, votre personnage est une femme, elle est mère, elle est ambitieuse. Son mari, parfois, bloque son ambition. Est-ce que vous diriez que la série est féministe ?
Oui, je dirais que la série est féministe. Si on part du principe que le féminisme, c'est la libération de la femme, c'est une femme qui veut s'émanciper, qui a des idées. Moi, jusqu'à présent, elle était speakerine et à 40 ans, elle en a marre de faire la potiche, elle a envie d'autre chose, elle a envie de faire plus partie d'un processus de création, de créer son magazine, de donner la parole aux femmes. Oui, c'est féministe parce que c'est une femme qui veut être libre et donner la parole à d'autres femmes.
Guillaume de Tonquédec, vous le disiez, vous incarnez donc le directeur de l'information de la seule chaîne de l'époque, hein, qui prend directement ses ordres par téléphone chez le ministre de l'Information, hein, comme ça qu'on disait à l'époque. Mais vous êtes également un mari, hein, le mari du personnage qu'incarne Marie Gillin. Et alors, vous êtes extrêmement, je vais dire macho. C'est pas le mot qui convient, parce que c'est un mot d'aujourd'hui, macho.
C'est un homme de son époque. C'est-à-dire, moi, j'ai éclaté de rire en lisant certaines des répliques, en me disant, c'est possible, je ne vais jamais pouvoir dire ça. Et en fait, si, c'est un homme de son époque. C'est-à-dire qu'il va être un petit peu rigide, mais pas tant que ça, en fait. Il est, c'est ce que je dis, dans son époque, qu'il accepte déjà que sa femme travaille, c'est énorme. C'est en 1965 seulement que les femmes ont le droit de travailler sans demander l'autorisation de leur mari. Donc ce personnage-là est tout à fait normal, entre guillemets, son époque.
Ouais. Moi, j'ai relu une anecdote, vous la connaissez probablement, le général de Gaulle, un jour on lui demande, mais il faudrait peut-être mettre un ministère de la condition féminine, et il avait répondu, pourquoi pas un sous-secrétariat d'État au tricot.
Voilà.
Oui, bah c'est...
Ça dit toute l'époque.
Ça dit toute l'époque.
Oui.
En plus, les speakerines apparemment faisaient du tricot en attendant pendant les longues heures où elles attendaient de faire leurs annonces. Donc la femme était totalement formatée et ça fait du bien de plonger dans ces années 60 pour voir comment plusieurs personnages féminins sont sortis un peu de cette case dans laquelle les femmes étaient.
Et moi, j'ai envie de rebondir juste sur le travail de Marie quand elle fait elle-même la speakerine qui doit être parfaitement polissée, etc., et souriante. qui m'a frappé, moi, c'est son travail d'actrice, c'est qu'elle vit des choses tellement bouleversantes et tellement fortes, que je ne peux pas trop raconter maintenant, mais je vais teaser, comme on dit, c'est qu'elle est obligée d'arriver même très en retard et en ayant vécu des choses bouleversantes juste avant et juste après son intervention, où elle est obligée de faire face. Et elle fait des choses formidables. Marie, il y a une analogie d'ailleurs avec le métier de comédien, où quelle que soit la journée qu'on a eue, il va falloir jouer en scène le soir au théâtre. Donc ça, c'est une partie qui m'a beaucoup impressionné dans le travail, dans l'écriture et dans la proposition qu'en fait Marie.
C'est gentil.
Bah oui.
On s'aime bien, on s'aime bien.
Ouais, on s'aime bien.
Moi aussi, content. J'aime bien son travail. Je l'aime beaucoup, mais je ne vais pas trop lui en faire, là, parce que sinon, il va croire que c'est seulement parce qu'il m'a fait un compliment. Mais je le sais.
Alors, Guillaume, Marie, on ne va pas s'apesantir sur l'histoire, on va laisser les téléspectateurs la découvrir. Ce n'est pas seulement, loin de là, une reconstitution de l'ORTF des années 60, parce qu'il se passe énormément de choses dans cette série. Il y a des rebondissements toutes les 5 minutes. Certains diront que c'est peut-être un peu trop chargé, d'ailleurs, en rebondissements.
Moi, je ne dirais pas qu'il y a des rebondissements toutes les 5 minutes. Non, c'est que forcément, le premier épisode, que je trouve vraiment parfait et très dense, ce n'est pas que l'histoire de cette speakerine. On rentre dans sa vie, on rentre dans sa famille, on rentre dans son couple, on rentre dans les coulisses de ce monde de la télévision. Donc forcément, autour d'elle, il y a d'autres personnages féminins, il y a cette jeune speakerine qui vient de sa province et qui est très ambitieuse. On voit la problématique de chacun de leurs enfants. Puis on voit aussi le rapport étroit entre le gouvernement qui utilisait la télévision comme moyen de propagande. Donc c'est vrai que c'est complexe cette époque et l'intrigue justement, je trouve qu'elle est très originale parce qu'elle mélange le côté romanesque, le côté policier, le côté vraiment documentation de l'époque.
C'est même ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'enchevêtrement de tout. C'est-à-dire c'est comme dans la vie. Cette femme, il lui arrive des trucs absolument terribles du point de vue privé. Et puis la grande histoire, la guerre d'Algérie, l'OAS... s'en mêle, le général de Gaulle, elle joue aussi son métier. Enfin, c'est ça qui m'a plu, moi, justement, c'était la surenchère de différentes intrigues et de différents styles d'écriture. C'est-à-dire, c'est à la fois politique, c'est historique, c'est du polar, ça parle de la libération de la femme, ça parle de beaucoup de choses, c'est ça qui m'a beaucoup plu.
Et est-ce que cette impression d'extrême densité, elle vient pas aussi du fait que la série était initialement prévue en 8 épisodes et qu'elle n'en fait plus que 6 à la fin ?
C'est sûr qu'on aurait pu développer plus et puis certains personnages aussi auraient mérité d'être plus développés, mais en même temps, à le regarder et à le faire, j'ai trouvé ça très passionnant, ça marchait très bien, quoi.
Marie Gillin, Benjamin le disait, il y a 6 épisodes, 3 fois 2 soirées. Est-ce qu'une saison 2 de Speakerine, à votre connaissance, est dans les cartons, est prévue ?
Je ne sais pas si c'est dans les cartons, mais... En fait, on s'en parle en ce moment. On est assez excité par l'idée, mais ça n'a pas été créé pour avoir forcément une saison 2. Mais on a pris tellement de plaisir et on aime tellement ces personnages. Et la fin est assez ouverte. Donc, nous, en tout cas, je sais pas toi, Guillaume, mais moi, j'aimerais vraiment bien continuer ça. Voilà, plus on se rapproche de 68, c'est passionnant quand même.
Ce serait formidable de pouvoir... les explorer sur un plus long terme, tous ces personnages. Il y a une matière merveilleuse et puis le pic, la fin, et c'est tellement énorme, c'est tellement ouvert, comme dit Marie, et tellement riche, qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, ne serait-ce qu'au sein de leur propre famille.
Guillaume, juste une question. Il y a quelques semaines, dans cette émission, on a reçu Yann Gouazampi, qui s'occupe de la fiction sur M6. On sort de Speakerine, 2 minutes. Et il nous parlait d'une nouvelle série en préparation sur l'affaire Dupont de Ligonnès. On lui a demandé à qui vous pensez pour le personnage. Et il a répondu... Guillaume de Tonquédec, il vous a contacté.
C'est Pierre Aknin qui réalise ça, non ?
C'est Pierre Aknin qui réalise, mais ouais. J'étais au courant du projet parce que moi-même, j'avais fait mon coming out, si j'ose dire, sur mon envie de jouer le personnage, mais on ne me l'a pas proposé. Donc je pense qu'ils ont eu une autre idée, finalement, quelqu'un de moins cher. Non, je ne sais pas, j'en sais rien. Ou alors ils vont finir par m'appeler après votre émission.
Peut-être.
C'est peut-être pour ça que Pierre Aknin m'a appelé en fait. C'est parce qu'en fait il voulait ton numéro de téléphone.
Ah bon ? Ah bah alors voilà. Bon bah j'attends.
Bon, je vais le rappeler.
Je suis au courant.
Merci beaucoup Marie Gillin d'être venue dans les dessous de l'écran. Merci Guillaume de Tonquédec.
Donc
on vous retrouve à partir de demain soir sur France 2, une série qui s'appelle Speakerine. Et on est parti pour 3 semaines avec vous. Merci à tous les deux.
Merci.
Dans un instant, Vincent Bolloré, il a annoncé cette semaine qu'il quittait la direction du conseil de surveillance du groupe Canal+. Vrai ou faux départ ?
Jusqu'à 19h30, RTL dimanche soir.
Les dessous de l'écran sur RTL avec Pure Média.
Philippe Robuchon.
La nouvelle est tombée mardi. Vincent Bolloré a annoncé qu'il quittait la présidence du conseil de surveillance de Canal+, officiellement parce que le groupe est sur la bonne voie, la voie du redressement. L'industriel breton se retire et laisse les rênes à ses hommes de confiance. S'agit-il d'un vrai départ ? Doit-on croire l'explication avancée ? N'y a-t-il pas d'autres raisons à ce retrait ? On en parle avec Benjamin Meffre de Pure Média, toujours là, et avec Isabelle Roberts. Bonsoir.
Bonsoir.
Du site Les Jours, oui. Sur lesquels depuis plus de 2 ans maintenant, vous racontez l'aventure Canal+ de Vincent Bolloré.
Oui, c'est un gros travail que nous menons chez lesjours.fr. On appelle ça une obsession.
Voilà, vous en êtes au 91e épisode.
C'est ça. C'est l'épisode consacré au faux départ de Vincent Bolloré.
Ah
c'est
bah vous avez déjà répondu. Bon, enfin, c'est pas grave. Voilà. J'allais vous demander ce que vous croyez que vous allez tenir jusqu'à 100 épisodes vu ce qui vient de se passer.
Je pense, oui. Je pense que Vincent Bolloré, qui est notre meilleur scénariste, va nous fournir des épisodes.
Bon, alors, vous êtes entré dans le dur, si je puis dire. Vous n'y croyez pas à ce départ de Vincent Bolloré ?
Disons que ce qui est vrai, c'est qu'il a quitté le conseil de surveillance de Canal+.
La présidence
du conseil de surveillance de Canal+, qu'il a laissé sa place à Jean-Christophe Thiéry, et que Maxime Saada est devenu président du directoire. Ça, c'est vrai. Mmh. C'est un faux départ, selon nous, au jour.fr, mais on est quand même quelques-uns à partager cette analyse, parce que les hommes qu'il a mis là étaient déjà là avant. En fait, tout le monde... Ouais. Monte d'un cran, mais en fait, rien ne change.
Et puis, Vincent Bolloré reste membre du conseil de surveillance et il est surtout toujours l'actionnaire de référence de Vivendi, oui. Maison mère de Canal+.
Alors, quand le communiqué officiel dit Vincent Bolloré s'en va parce que le groupe est sur la voie du redressement, d'abord, est-ce que cela correspond à la réalité ?
C'est une drôle de façon de concevoir un redressement, étant donné que Canal+, depuis l'arrivée de Vincent Bolloré, a perdu 1 million d'abonnés.
Il y a 3 ans.
Voilà. Alors, bon, c'est contrebalancé, en tout cas, c'est le discours de Canal+, par le fait que maintenant, ils sont associés à des opérateurs comme Free ou Orange, ce qui constitue un parc d'abonnés de 3 millions. Mmh. Mais ça, ce sont des abonnés qui ne coûtent pas cher, parce que c'est dans les offres, ça rapporte à peu près 2 euros et surtout, généralement par exemple chez Free, ce sont des offres qui sont incluses automatiquement et donc on s'en rend même pas compte.
C'est ça. Et l'argent que payent ces abonnés n'entre pas dans les caisses, enfin le gros de l'argent n'entre pas dans les caisses de Canal, il entre dans les caisses des opérateurs.
Opérateurs, ça rapporte très peu à Canal, ça rapporte très peu en chiffre d'affaires. En fait.
Donc pour faire simple, en nombre d'abonnés, quand la direction du groupe Canal dit on est sur la voie du redressement, en France, c'est faux.
En France, oui.
Alors, ce que dit Canal, c'est que c'est faux dans le sens où le chiffre officiel, c'est moins 300 000 abonnés en 2017. Ça, c'est un chiffre que rend public Vivendi et Canal+. Mais ce que dit Canal+, c'est que dans ce bloc Canal+, il y a des choses qui sont structurellement déficitaires, c'est-à-dire Canal Play et CanalSat, et que si on prend uniquement les chaînes Canal+, elles sont en progression. Elles auraient gagné 150 000 abonnés en 2017. Et ce que met également en avant Canal+, c'est que le taux de résiliation des abonnements est en train de baisser par rapport à 2016 en 2017. Et donc, Canal+ dit que c'est le signe du début d'un redressement de l'ensemble du groupe.
Voilà, parce que Benjamin, on rappelle, on avait déjà fait une émission là-dessus, qu'il y a eu un plan de relance de Canal+, avec un système d'abonnement qui a complètement changé, l'abonnement unique à 40 euros a disparu. Bon, et ça, selon Canal, ça serait en train de produire des effets. En tout cas,
c'est en tout cas le discours officiel qu'il porte, c'est que cette refondation et cette fin du dogme de l'abonnement à 40 euros avec engagement, qui était vraiment le socle depuis le début de l'histoire de Canal+, que la création d'abonnements un peu plus sur mesure, si on aime le sport, il y a plus de sport selon les formules, etc., porterait ses fruits et séduirait les clients.
Alors, Isabelle Roberts, vous en pensez quoi de cela ?
Alors, c'est sans doute vrai en nombre d'abonnés. Le problème, c'est que ce sont des abonnés qui rapportent peu, en fait. Et qu'en chiffre d'affaires, du coup, ça a très peu d'impact, voire pas d'impact du tout.
Alors, restons une seconde dans les chiffres officiels du groupe Canal+. Ce qui est vrai, là, je pense que vous n'allez pas nous démentir, c'est qu'à l'international, Canal+, ça marche encore, et ça marche même de mieux en mieux.
C'est l'international qui porte le groupe Canal+, aujourd'hui. Voilà, c'est 6 millions d'abonnés, à peu près.
Mmh. Canal a plus d'abonnés à l'étranger qu'en France, aujourd'hui, puisqu'on en est à un peu moins de 5 millions, je crois.
Et il faut souligner que c'était déjà le cas avant l'arrivée de Vincent Bolloré. C'était déjà l'international qui tractait toute la croissance du groupe Canal+, parce qu'en France, déjà, Canal+, connaissait de grandes difficultés.
Alors, Isabelle Roberts, on vous a fait venir, parce que vous connaissez très bien Canal+, et ce qui s'y passe. Quand Vincent Bolloré fait un pas en retrait, là, il laisse les rênes à ses Bolo Boys, comme vous les appelez, Pourquoi s'en va-t-il? Quelle est la vraie raison?
Alors ça, c'est assez étonnant. En fait, Vincent Bolloré, dès qu'il prend la présidence du conseil de surveillance de Canal+, en septembre 2015, dit que ce n'est que pour un temps. Pour lui, c'est une mission. Il le dit aux élus dès le départ, en fait. Ce qui est un peu étonnant quand même, là, c'est le timing et c'est une vraie surprise en interne pour tout le monde. Même des proches n'étaient pas au courant. Même des très proches n'étaient pas au courant. La semaine dernière, il va chez CNews, fait le tour de la chaîne, il serre des mains, mais vraiment comme un patron paternaliste, pas du tout comme quelqu'un qui va s'en aller. Donc il y a quelque chose de très étonnant. Ouais.
Et alors, vous avez un début d'explication, des supputations?
Il y a plein d'hypothèses sur lesquelles on est en train d'enquêter, mais on en saura peut-être plus la semaine prochaine avec l'AG des actionnaires de Vivendi.
Eh oui, 19 avril ou 17 avril.
19 avril.
19 avril. On murmure, mais alors là, vous êtes mieux placé que moi pour répondre, que les ennuis, entre guillemets, de Vincent Bolloré en Italie, où on sait qu'il n'a pas réussi à s'allier à la famille Berlusconi, hein, Mediaset, serait une partie de l'explication, mais pas seulement.
Oui, je pense que c'est une partie de l'explication. Effectivement, pas seulement. Et puis, il y a quand même le fait qu'en ce moment, et depuis un certain temps, Vincent Bolloré a quand même mauvaise presse. Il y a deux semaines encore, il y avait l'audience du procès qu'il mène contre complément d'enquête et France 2, contre Tristan Ouellex, qui a quand même eu le prix Albert Londres en 2017 pour ce documentaire. Il l'attaque pour diffamation à Nanterre. Et ça, c'est pas bon pour lui, parce que finalement, quand il est obligé de plaider contre un prix Albert Londres et que le prix Albert Londres en question se défend très bien, bah ça fait des drôles de papiers contre Vincent Bolloré.
Je crois qu'il a réclamé 50 millions d'euros de dommages et intérêts.
Alors ça, c'est dans une autre...
Il y a plusieurs procédures.
Voilà, il y a trois procédures en fait. Il y a une procédure devant le tribunal de commerce et là, il réclame 50 millions d'euros. Il y a une procédure pour diffamation et il y a une troisième procédure au Cameroun.
D'accord. Je suis peut-être allé un peu vite en besogne dans mes explications tout à l'heure quand je parlais de l'alliance ratée avec la famille Berlusconi. Pourquoi il faut expliquer tout ça? Parce que Vincent Bolloré avait un projet européen, on peut
de
dire,
Netflix,
Benjamin.
Netflix latin, comme il l'a appelé à plusieurs reprises. Donc c'était un projet industriel très ambitieux, faut le dire, où il voulait créer une plateforme de SVOD réunissant des pays de la France, l'Italie, éventuellement l'Espagne. Et Mediaset était l'un des premiers intermédiaires de la construction de ce Netflix européen. Or, l'accord avec Mediaset est tombé à l'eau et maintenant, on ne sait pas vraiment quelle est la stratégie de Vivendi parce que tout ce projet tombe également à l'eau. Donc, on ne sait pas ce que va faire Vincent Bolloré. Personne ne sait.
En trois ans, est-ce qu'on peut dire qu'il aura réussi ou échoué?
Échoué. Je pense qu'il n'y a pas photo. Je pense qu'il n'y a pas photo. Je ne vois pas comment on peut dire qu'il ait réussi quoi que ce soit.
Je pense qu'il est encore trop tôt pour l'affirmer définitivement, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a porté un rude coup, ne serait-ce qu'à l'image de Canal+. Pour Canal+, l'image, c'était tout. Pendant très longtemps, c'était extrêmement important. Et aujourd'hui, cette image est objectivement dégradée, quoi qu'on pense de Vincent Bolloré. Et puis, plus largement, on ne comprend pas ce qu'il veut faire réellement. Ça, c'est un des points d'interrogation permanents autour de l'action de Vincent Bolloré. Personne ne sait ce qu'il veut faire. Alors, certains pensent qu'il a toujours un plan caché, qu'il est tellement intelligent qu'il voit plus loin et qu'il a peut-être une stratégie que nous n'arrivons pas à décrypter. Mais bon, au bout de trois ans, force est de constater qu'on ne comprend pas quel est le projet industriel. Y en a-t-il un véritablement, ou est-ce juste un projet financier? Parce qu'on peut se poser la question. Il a fait l'essentiel de sa carrière en faisant des raids financiers, en gagnant beaucoup d'argent grâce à ça, sans avoir forcément l'envie de développer des activités sur le long terme. Donc c'est ça le problème de fond de Vincent Bolloré, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'il fait depuis trois ans à la tête du groupe Canal+.
Parce que pour en rester au factuel, 1 million d'abonnés perdus à Canal+, on rappelle qu'il avait racheté Dailymotion, il promettait de concurrencer YouTube. Depuis qu'il l'a racheté, Dailymotion a vu son audience divisé par deux.
Voilà.
Le Netflix à l'européenne qu'il voulait faire avec Berlusconi et avec d'autres, plouf. Il voulait racheter Ubisoft, les jeux vidéo, échec.
Semi-échec, car il a pris une belle plus-value d'1,2 milliard d'euros. Mais en tout cas, voilà, d'un point de vue financier, c'est une semi-réussite, vu qu'il prend de l'argent, mais il n'a pas pris le contrôle d'Ubisoft, et il ne l'a pas intégré à son groupe. Donc, d'un point de vue industriel, c'est un échec, cette opération.
Donc, Isabelle, vous maintenez échec sur toute la ligne.
Échec sur toute la ligne, ou alors il faudrait qu'on me prouve le contraire.
Alors, Isabelle Roberts, vous disiez dans quelques jours, le 19 avril, il y a l'Assemblée Générale de Vivendi, donc maison mère de Canal+. Mmh. Est-ce que vous pensez qu'à cette occasion, on pourrait apprendre des choses sur l'avenir du groupe télé, je parle?
Alors, moi, j'en attends beaucoup, personnellement, de cet AG.
Ça pourrait, quoi, une revente
Ça fait partie des hypothèses, hein, parce que effectivement, comme disait Benjamin, on se gratte la tête depuis 3 ans à essayer de comprendre ce qu'essaie de faire Vincent Bolloré. Et il y a une chose très importante, effectivement, c'est que c'est un raideur. C'est quelqu'un qui fait des raids, Vincent Bolloré. Or, un raideur, qu'est-ce que ça fait? Ça achète et ça revend. Donc, à un moment donné, c'est sûr qu'il va se poser la question de la revente, soit de Canal+, soit du groupe Canal+, soit du groupe Canal+ par appartement, parce que ce qui est important aussi, ce sont les chaînes gratuites. Mmh. Donc ça, oui, effectivement, c'est une hypothèse. Il y a autre chose aussi qui peut jouer dans ce timing, ce sont les droits du foot.
Parce qu'à la rentrée prochaine de septembre, et d'ailleurs je pense qu'il y a beaucoup d'abonnés de Canal qui n'ont pas encore réalisé, qu'en septembre, là, dans quelques mois, la Ligue des Champions allait disparaître de Canal+.
Et oui, les pauvres.
Ça va chez SFR.
Ça va chez SFR, et très bientôt va se poser la question des droits de la Ligue 1, qui oui. du coup sont vraiment vitaux pour Canal+, qui n'a plus la Ligue des Champions. Donc sans doute que le groupe va jouer son va-tout lors de cette renégociation des droits qui s'annonce déjà très compliqué pour Canal.
Bon, on aura compris que ce 19 avril, jour de l'Assemblée Générale de Vivendi, maison mère de Canal+, encore une fois, il risque de se passer des choses. On vous réinvitera, Isabelle, pour savoir si
avec plaisir.
Vous avez pronostiqué le vrai.
Vous pourrez lire ça sur lesjours.fr.
Sur lesjours.fr. Merci beaucoup. Ce sera le 92e épisode.
Oui.
Merci Isabelle Roberts. Merci Benjamin Meffre, Pure Média. À dimanche prochain.
Les dessous de l'écran sur RTL avec Pure Média.